Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix des Arts pour poursuivre avec moi cette grande traversée du temps en compagnie des femmes artistes créatrices. Alors la dernière émission, nous nous trouvions en compagnie d'architectes, de designers, de décoratrices, de plasticiennes, principalement des créatrices artistes allemandes, en lien avec ces courants novateurs nés du dadaïsme, du surréalisme, voire du futurisme. Alors elles expérimentaient de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux avec profit pour elles-mêmes hein, et l'entourage, voire en rapport avec l'idée d'un certain progrès social. Elles ont ainsi participé au développement des arts et des techniques, même si leur nom a été oublié ou occulté, et apparemment principalement en raison de leur sexe. Alors restons aujourd'hui encore un peu en compagnie des Allemandes, hein, des peintres surtout, dont la particularité fut de se rattacher au mouvement expressionniste. Alors l'expressionnisme, je vous le rappelle, est un mouvement né dans la première partie du XXe siècle en Allemagne. Il est généré par des artistes dans un environnement où les climats de guerre sont palpables et où les sentiments d'insatisfaction, de révolte, les idées de transformation sociale notamment, produisent des œuvres intenses et expressives hein, en forme et en couleur. Alors les artistes donnent ainsi corps à leur subjectivité, accentuent la réalité dans le but de provoquer de fortes émotions de la part d'un public. Et l'un des tableaux bien représentatifs de l'expressionnisme, hein, entre autres bien sûr, c'est celui réalisé par Edouard Munch et intitulé « Le cri ». Ce tableau impressionnant, bah déjà sur moi, avait fait l'objet de ma part d'un commentaire dans l'une des émissions de La Voix des Arts. C'était une série d'émissions destinées à vous faire ressentir et comprendre le lien entre création, réalité de l'artiste, réalité sociale, politique, voire spirituelle. Car les œuvres d'art accompagnent, hein, je le rappelle, de tout temps l'histoire en épousant les réalités non seulement personnelles, mais aussi celles des contextes sociaux des époques. Alors le mot expressionnisme apparaît au début du XXe siècle. Il est dit qu'il fut mentionné une première fois fin de la première décennie du XXe siècle lors d'une exposition mêlant artistes allemands et français, notamment des fauves. Puis il s'affirma autour de peintres et sculpteurs issus du groupe Die Brücke, qui traduit par le pont, et des membres du Blaue Reiter, le cavalier bleu, où le nom du peintre Vassili Kandinsky y est étroitement mêlé. Et je citerai également Oskar Kokoschka. Alors je les mentionne en référence parce que ce sont des peintres connus du grand public et que sans doute la plupart de vous, ben vous les connaissez. Alors je pense aussi au peintre allemand Otto Dix, parmi d'autres bien sûr, parce que je me souviens d'une exposition que j'avais vue sur lui. Bon, je ne sais plus si c'était à Paris ou dans une autre ville d'Europe. Enfin, quoi qu'il en soit, ce dont je me souviens, ben, c'est de ce que j'ai ressenti devant cette peinture qui impressionne et sollicite le questionnement. Alors malgré tout, ce serait Paula Modersohn-Becker, la pionnière de l'expressionnisme, une peintre allemande née au XIXe siècle en 1876 et qui est décédée prématurément à l'accouchement au tout début du XXe siècle en 1907, hein, c'est-à-dire à l'âge de 31 ans, ben pour ceux qui ne veulent pas compter, bon, ce qui est bien jeune dans l'absolu, par là même annule aussi toute possibilité d'évolution et de développement pour s'inscrire dans un mouvement qui aurait pu faire la part belle à cette femme, peut-être. Alors, il me semble que j'ai déjà parlé de cette peintre, hein, moins que ce soit une impression, parce que logée dans un coin de mon cerveau, suite à sa découverte peut-être un peu éloignée dans le temps, bah, c'est possible. Ce qui veut bien dire que mes neurones, et dont mes capacités à mémoriser, sont durement sollicitées par ce nombre impressionnant impressionnant. Deux femmes artistes qui jaillissent de partout. Dès que j'écoute, je lis ou ouvre simplement mon ordinateur. Et par moments, on dirait que ce sont elles qui viennent à moi pour se présenter. Puis complaisamment, elles me prennent par la main pour me conduire à les découvrir un peu plus. Et petit à petit, me sollicitent pour que je les ramène à une certaine forme de vie où elles peuvent encore exister. Mais peu importe, parlons de ce peintre qui a attiré l'attention de l'écrivaine Marie Darrieussecq, puisqu'elle a publié une biographie sur ce peintre intitulée « Être ici est une splendeur », que je n'ai pas lue mais dont j'ai entendu parler. Alors qui est-elle, elle qui a été redécouverte et célébrée après sa mort? Ben, figurez-vous qu'au moment où je m'intéresse à cette femme et me prépare à vous en parler, je me rends compte que j'ai vu un film intitulé Paula, qui date de 2-3 ans, hein, je crois, et qui retrace justement le destin de cette artiste. Alors Paula Modersohn-Baker a détecté assez précocement son penchant naturel pour la peinture. Bon, sans doute son environnement familial cultivé fréquentant les milieux artistiques a été un déclencheur, ce qui fait qu'elle a étudié le dessin à Londres, la peinture à Brême, sa ville de naissance, pour ensuite intégrer une école de dessin et peinture d'une association de femmes artistes et amateurs d'art à Berlin. Alors, c'est une institution qui avait bonne réputation, et parmi les professeurs qui y enseignaient, Kate Kollwitz, hein, dont j'ai déjà parlé, et une portraitiste nommée Jana Bock, qu'appréciait bien Paula. Alors elle s'intégrera par la suite dans une colonie d'artistes installée à la campagne, vivant une certaine liberté loin des dictats sociaux et qui s'inspirait de l'école de Barbizon. Et c'est là qu'elle rencontrera son futur mari, peintre également, nommé Otto Modersohn, qui lui rencontrera une certaine notoriété. Or parmi ces autres artistes, la future épouse du poète célèbre Rainer Maria Rilke, nommée Clara Westhoff, qui elle est sculptrice. Alors Paula a créé en s'inspirant de son environnement, de la vie à la campagne, et montre déjà dans ses toiles une originalité qui la rapproche de l'expressionnisme, avec une simplification recherchée dans les formes et couleurs, et le souci d'aller à l'essentiel pour dégager l'intensité qu'elle perçoit de ses sujets immergés dans leur réalité. Alors son mariage avec Otto Modersohn est un mariage d'amour, mais très vite, le poids des conventions se fait ressentir avec l'obligation pour elle, qui est une femme mariée, de se soumettre, c'est-à-dire globalement, délaisser son art pour assumer ses fonctions d'épouse, qui sous-entend qu'elle devra par la suite assumer son rôle de mère de famille, et ceci sous dépendance financière totale du mari et de la famille, ce qui veut dire encore qu'elle devra toujours demander des permissions, ce qui induit évidemment un manque d'autonomie. Alors apparemment, cette femme aura été tiraillée entre son désir, son besoin de peindre viscéral qu'on a voulu lui retirer et les obligations pesantes qu'imposait la société de l'époque. Quant au mari, il semble qu'il ait adhéré au conformisme ambiant qui le favorisait plutôt car il allait de soi qu'il pouvait progresser dans son art et qu'avec une aide à ses côtés pour le débarrasser du quotidien trivial, c'était plutôt favorable pour lui. Hein. Ça le favorisait plutôt. Les aménagements intérieurs, en tout cas, ont dû être difficiles, si bien qu'à un moment, tel l'oiseau prisonnier qui s'échappe de la cage, Paula prit son envol, quasiment sans subside, et elle débarqua à Paris dans la communauté artistique locale où elle essaya tant bien que mal de survivre, mais surtout elle reprit ses pinceaux. Alors cela dura un temps, celui qu'il fallut au mari sans doute pour réfléchir de laisser une part de sa vie personnelle à sa femme, si bien qu'il revint la chercher et qu'ensemble, réconciliés apparemment, ils reprirent le chemin du bercail. Alors nous savons beaucoup de choses d'elle parce qu'elle consignait pensées, sentiments, conditions d'existence dans un carnet intime. Alors la suite de l'histoire est plutôt pathétique, hein, puisqu'elle mourut à 31 ans des suites d'un accouchement difficile en laissant un mari inconsolable. Et je vais vous lire ce qu'elle a écrit dans son journal. « Je sais que je ne vais pas vivre très longtemps, mais est-ce si triste? Une fête est-elle plus belle parce qu'elle est plus longue? Et ma vie est une fête belle et intense. Mes sens s'affinent comme si, dans les quelques années qui me restent, il me fallait tout, tout assimiler, et j'aspire tout, j'absorbe tout. » Or, ce désir de vie me fait penser un peu à celui de la peintre Marie Basquiat, elle aussi précocement décédée à l'âge de 25 ans, et je vous en avais parlé dans cette série, et je vous avais lu aussi un passage de son journal qui soulignait son appétit de vivre. Alors évidemment, je me suis intéressée aux toiles de Paula. La première chose à faire, c'est de les regarder. Et même si c'est toujours mieux dans le réel, Internet offre le moyen de se faire un avis. Et moi, j'ai constaté que ces peintures traitent d'un quotidien duquel émane une simplicité authentique avec une présence bien incarnée qui ressort de ces sujets, des paysages, des natures mortes, et surtout de ces personnages presque exclusivement féminins et des enfants. Alors, un musée à Brême lui est maintenant consacré. Il le sera 20 ans après son décès en 1927 et ce sera l'un des premiers au monde à être consacré à une femme artiste. Alors, par la suite, lorsque les nazis arriveront au pouvoir, mais la première chose qu'ils feront, c'est de retirer ou détruire ses œuvres, car, comme tant d'autres à cette époque, son art sera catalogué comme dégénéré. Alors, à l'heure actuelle, bien évidemment, elle reçoit une reconnaissance importante, la reconnaissance de son talent, d'autant plus qu'il est lié à ce destin tragique qui fait que cette artiste éprise de vie et de peinture a été foudroyée en plein vol et en pleine ascension. Et le poète Rainer Maria Rilke, affecté par son décès, car ils étaient amis, a composé en 1908 un poème intitulé « Requiem pour une amie », qui est un long poème où il s'adresse à elle en entrant dans sa vie, dans son âme, dans son esprit d'artiste, qu'il amalgame au sien et à d'autres, et le tout avec beaucoup de ferveur, et que vous pouvez lire aussi sur Internet. Que diriez-vous d'une petite pause musicale pour nous remettre de ces émotions sollicitées par ces artistes tragiques, en restant en compagnie des Allemandes, si possible, et ça l'est? Aussi, je vous propose d'écouter une compositrice nommée Ilse Fromm Michael, née en 1888 et d'ailleurs décédée à l'âge avancé de 88 ans, puisqu'elle a traversé plus des trois quarts du XXe siècle en décédant en 1986. Alors, j'ai lu de diverses sources qu'elle aurait appris le piano à 5 ans pour composer sa première polka à 8 ans. Apparemment, c'était quelqu'un de brillant, qui étudiera au Conservatoire de Berlin la composition et également le piano. Elle donnera des concerts sous la direction de chefs d'orchestre reconnus. Pour les plus connus du grand public, je citerai Otto Klemperer, Arnold Schönberg. Alors, le drame, c'est que la situation politique et sociale dégénère. Aussi, le gouvernement en place lui interdit, dès 1923, d'exercer son métier de compositrice et de pianiste sous prétexte qu'elle avait épousé un juif. Bon, ce sera une dure période pour elle à supporter. Il est dit qu'après la Seconde Guerre mondiale, son élan créateur sera brisé. Elle composera néanmoins en 1944 pour son fils un mélancolique quatuor pour clarinette intitulé « Musica larga ». Mais néanmoins, elle sera récompensée en recevant plusieurs distinctions pour certaines de ses créations. Et elle aura quand même écrit diverses musiques, dont des pièces pour instruments seuls, de la musique pour orchestre, de la musique de chambre et des pièces vocales. Et je vous propose donc maintenant d'écouter la musique de Ilse Fromm Michael, des Skizzen, opus 5, que l'on peut traduire par esquisse, et en voici 3. Alors, j'avais mentionné le nom de Kate Kollwitz, hein, la professeure de Paula Modersohn-Becker, la professeure à l'école, hein, et je vous l'avais déjà présentée dans une précédente émission. Elle est née en 1867 et a fait partie du mouvement expressionniste en étant peintre et aussi l'un des graveurs les plus renommés dans l'Allemagne du début du XXe siècle. Et je vous avais dit qu'elle était très impliquée dans les problèmes sociaux qu'elle dénonçait surtout au travers de la gravure, apparemment plus convaincante pour elle que la peinture. Alors parmi ces artistes expressionnistes, je citerai Maria von Ferefkin, née en 1860, mais qui s'inscrit, malgré qu'elle soit née au tout début de la seconde partie du XIXe siècle, dans le courant expressionniste. Bon, elle a disposé aussi plus de temps pour s'exprimer que Paula Modersohn-Becker, bien que pendant une dizaine d'années, elle ait vécu une période de flottement, d'incertitude, où elle s'est arrêtée de peindre. Alors Maria von Ferefkin vient d'un milieu qui lui procure une certaine aisance financière, ce qui lui permet d'expérimenter sa liberté. C'est à Saint-Pétersbourg qu'elle suivra des études artistiques et elle sera en cela poussée par sa mère, qui est peintre d'icônes. Alors Maria était douée, si bien que ses parents l'inscrivent adolescente dans une école de dessin et elle deviendra par la suite l'élève d'un des plus grands peintres réalistes de Russie, nommé Ilia Répine. Elle vivra cependant un drame personnel dû à un accident qui l'handicapera pendant une longue période puisqu'elle ne pourra plus utiliser sa main pour dessiner et peindre, et une rééducation assidue, à ce qu'il paraît, lui permettra de reprendre ses crayons et ses pinceaux. Et c'est à la suite d'une rencontre importante pour elle avec un peintre nommé Alexei von Jaworski, toujours du mal à prononcer, désolée, qu'elle partira à Munich, bien évidemment avec lui. Alors sur place, ils se mêleront à la communauté artistique russe et poursuivront tous deux leurs études artistiques. Maria fera salon chez elle et accueillera la communauté artistique et culturelle. Elle rencontrera le peintre connu Vassili Kandinsky, qui avait développé des théories intéressantes autour de l'art et qui a laissé des écrits dont je vous avais parlé également dans une émission. Il s'agissait de son ouvrage intitulé « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier », hein, que je vous avais invité à lire, si vous vous souvenez. Mais revenons à Maria von Ferefkin, hein, qui rencontrera également une autre peintre dont je parlerai ensuite, nommée Gabriel Munter. Alors au commencement de sa carrière, elle était inspirée par la tradition russe en employant des symboles plus ou moins religieux, puis elle se rapprochera petit à petit des expressionnistes. Alors je vous ai dit qu'elle a vécu une période de flottement, une sorte de dépression, d'insatisfaction artistique où elle ne savait plus comment faire évoluer son art et que pendant presque 10 ans, elle n'a pas produit et s'est plutôt occupée de son salon et de soutenir la carrière d'Alexei von Jaworski. Alors le déclic pour se renouveler surviendra grâce à un voyage en France lorsqu'elle découvrira la peinture colorée d'Henri Matisse et de Paul Gauguin. Et c'est à partir de 1906 qu'elle se remettra à peindre en essayant d'apporter de la force par la couleur afin d'exprimer la puissance des émotions. Et ce qui est possible d'appréhender sur Internet en faisant quelques recherches, car moi j'ai besoin toujours de savoir de quel artiste je parle en m'imprégnant de leurs œuvres. Alors par la suite, elle se mettra en collaboration avec son ami Alexei, également avec Kandinsky, pour fonder avec d'autres artistes la nouvelle association des artistes munichois, qui donnera par la suite naissance en 1912 à un nouveau groupe intitulé Le Cavalier Bleu, Der Blaue Reiter, en relation surtout avec les théories et les préoccupations artistiques de Kandinsky. Ensuite, avec la première guerre qui éclate, elle partira avec Alexei s'installer en Suisse, où ils se sépareront, et elle, dans le village où elle vivra, près du lac Majeur, elle continuera de peindre et créera un groupe d'artistes sous le vocable de Grosser Bar, que l'on traduit par la Grande Ours. Alors évidemment, elle peindra des personnages, hein, des scènes de la vie quotidienne et des paysages inspirés de ses lieux d'existence. Alors, j'ai mentionné le nom de Gabriel Munter, qui a fait également partie du Blaue Reiter, hein, le cavalier bleu, avec Maria von Ferefkin et Kandinsky. C'est aussi une peintre expressionniste majeure. Elle est née en 1877. Elle révélera précocement des dispositions et un intérêt pour l'art que soutiendront ses parents. Mais elle devra en quelque sorte jongler avec les écoles, puisque certaines, comme les académies des beaux-arts, fin 19e siècle, étaient interdites aux femmes. Elle suivra donc des cours d'art dans des écoles pour femmes à Düsseldorf, puis à Munich, et ensuite assistera aux cours de peinture dispensés par Vassili Kandinsky. Alors elle est douée, Vassili Kandinsky la prend sous son aile, et s'ensuit une liaison amoureuse entre eux. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ils vont voyager, parfaire leur art. La découverte du fauvisme impressionnera Gabriel Munter. Elle va rencontrer de nombreux artistes d'avant-garde. Il semblerait que c'était quelqu'un de créatif, de curieux, de touche-à-tout, en recherche permanente pour nourrir son art. Elle va s'intéresser à la gravure sur bois et sur métal. Elle innovera car il dit... Il est dit qu'elle s'appropriera une technique traditionnelle qui est l'utilisation du verre dont elle se servira comme support à ses œuvres, ce qui sera repris ensuite par les autres. Elle expérimentera différents modes d'expression, ce qui fait que même si son nom n'est pas aussi évocateur que celui de Kandinsky ou d'autres peintres en vue, elle restera une artiste incontournable, représentative de l'avant-garde. Et dans une lettre que Kandinsky lui adresse, il écrit, et je vous le lis, « Tu possèdes en toi l'étincelle divine, chose incroyablement rare chez les peintres, le rythme de ton trait et ton sens de la couleur. » Alors une autre expressionniste allemande apparaît, il s'agit de l'allemande Lou Albert Lazar, née en 1885. Elle étudiera l'art avec notamment le peintre Henri Beck, puis à Paris avec Fernand Léger. Entre-temps, elle vivra 2 ans avec le poète Rainer Maria Rilke à Vienne et à Munich, qui décidément appréciait bien les femmes artistes comme amantes. Elle fera d'ailleurs son portrait devenu célèbre et exposé maintenant au Musée de la littérature de Marbach en Allemagne. Elle convolera aussi, aura une fille avec qui elle sera étroitement liée tout le reste de sa vie et qui s'occupera par la suite de l'œuvre de sa mère. Entre-temps, elle fréquentera bien évidemment, comme tant d'autres, les milieux artistiques et littéraires, où elle rencontrera des écrivains comme Stefan Zweig, Romain Rolland, les peintres Paul Klee et Kokoschka, mais aussi Cocteau, Paul Valéry, Matisse ou Giacometti, entre autres. Alors, il est vrai que la communauté artistique était une communauté vivante, hein, qui échangeait beaucoup entre elles, faisait la fête, et Lou Albert Lazar est décrite comme une personnalité libertaire ayant mené une vraie vie de bohème. Or, c'était une voyageuse, elle aussi. Il est vrai que les voyages nourrissent les artistes, et ce sont l'Espagne, l'Italie, mais aussi les Indes, le Tibet, l'Afrique, la Chine. Bref, encore une vie de femme artiste rondement menée. Alors, elle vivra en Suisse, puis à Berlin, et reviendra sur Paris, ce qui ne l'empêchera pas d'être enfermée dans un camp pour ressortissants allemands dans les Pyrénées-Atlantiques, où elle souffrira des mauvaises conditions, et elle en témoignera au travers de ses dessins. Alors, elle exposera surtout à Munich et à Zurich. Entre autres, elle réalisera des gravures, publiera en 1925 un recueil de lithographies consacré à Montmartre. Et proche des milieux littéraires, elle illustrera aussi le recueil Parabole de Paul Valéry. Elle décédera en 1969 en laissant une belle œuvre que j'ai cherché et regardé sur Internet et qui pour moi vaut la peine d'être contemplée. L'historien de l'expressionnisme, Jean-Michel Palmier, évoquera son œuvre, et je vous le lis, « Une œuvre considérable qui, en dépit de sa beauté, n'a pas encore été reconnue à sa juste valeur. » Et ce sont sur ces derniers mots que nous allons nous quitter. J'espère que vous suivez toujours, que vous ne vous êtes pas endormi en cours de route, bercé par le ronron tranquille de ma petite voix. Qui ne se veut bien évidemment pas soporifique, mais plutôt tenterait de vous amener gentiment à vous intéresser à l'expression créatrice du côté féminin de notre humanité. Sur ce, merci de votre écoute et à bientôt sur La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.